La voleuse, par Irène Némirovski. On avait volé l'argent dans l'armoire où la maîtresse du domaine l'avait serré la veille. C'était le prix de 4 cochons, 2 billets de 1000 francs qui avaient reposé toute la nuit sous une pile de grands draps jaunes. J'ai compté moi-même les sous hier, avant de me mettre au lit, et recompté ce matin, dit la vieille femme au gendarme qui venait enquêter à la ferme. Messieurs, c'est une honte. J'étais sorti pour panser les bêtes. Je devais envoyer la gamine au bourg chercher le pain. Je rentre, j'ouvre l'armoire, je regarde encore, rien. Les gendarmes étaient assis dans la salle, à Malaret. Malaret est un château en ruine. Il avait appartenu au baron du jeu qui, ne pouvant plus l'habiter ni le restaurer, faute d'argent, l'avait loué à des métayers. Ces métayers enrichis avaient racheté le château et les terres, mais ils ne réparaient rien, par avarice ou par négligence. Les poulaillers et les clapiers étaient bâtis dans la grande cour d'honneur. Les bêtes buvaient l'eau de l'étang, le plus beau, le plus poissonneux du pays autrefois, et maintenant à demi comblé par la vase. Sur la terrasse, dont les marronniers avaient été abattus, séchait la lessive. Les gens du Malaret étaient peu aimables, méfiants. Ils avaient l'air fiers et sauvages. L'hiver, ils restaient 6 à 8 mois sans voir personne. Malaret était loin du bourg et entouré de forêts. À la mauvaise saison, les chemins devenaient des pistes impraticables. Les murailles laissaient pleuvoir des pierres, et les jours devant, les tuiles tombaient du toit. L'ancienne salle des gardes avait été transformée en cuisine. Dans les autres pièces, les planchers étaient affaissés, les vitres brisées. Des toisons de laine pendaient à l'intérieur des cheminées. On n'y faisait jamais de feu. Elles étaient si vastes qu'elles auraient dévoré en quelques nuits la provision de bois pour l'hiver. Dans l'ancienne bibliothèque, on élevait des agneaux. Les pommes étaient conservées dans la salle de musique. À côté de la cuisine se trouvait une petite chambre délicieuse avec une alcôve peinte et une fenêtre ronde. L'alcôve contenait des pommes de terre et un chapelet d'oignons encadrait la fenêtre. Dans le bourg, quoiqu'on aimât guère ceux du Malaret, on les louait de continuer à vivre, malgré leur fortune, comme des paysans et non comme des bourgeois. « Pourtant ils sont riches, ils ont de quoi », disait-on d'eux avec considération. Mais avec la vieille, un sou est un sou. La vieille était une petite femme maigre, impérieuse, qui se tenait debout devant les gendarmes, très droite, les deux mains serrées sur son ventre. Elle avait une terrible bouche rentrée, presque sans lèvres, au coin tombant et profondément creusé. Elle était veuve. Elle régentait le domaine. On ne lui connaissait qu'une faiblesse. Elle adorait sa petite fille, une enfant de 12 ans, une bâtarde, de son fils aîné, mort des suites d'un accident de chasse. Les gens savaient qu'avant de mourir, le garçon, il avait 20 ans, s'était confessé à sa mère. « J'étais l'amant, lui dit-il, de Marguerite, la servante. Maintenant, elle attend un gosse de moi. Jure que tu l'élèveras. » La mère avait promis. L'enfant, une fille, Marcel, était né. Peu à peu, la vieille femme s'était attachée à sa petite fille au point de l'adopter et d'en faire son héritière. Quant à la Marguerite, elle avait pris un bijou, une broche en or qui appartenait à la maîtresse, et on l'avait mise dehors. Marcel n'avait que quelques mois. La servante, après avoir quitté la ferme, s'était placée à Paris. Elle était morte au bout de peu de temps. Elle n'avait jamais réclamé sa fille. La grand-mère gâtait Marcel. Elle lui faisait donner des leçons de piano au bourg et l'habillait de blanc les jours de fête. Elle disait qu'elle ne la placerait pas, mais qu'elle la marierait et lui laisserait le domaine. C'était une belle enfant, très grande pour son âge, la meilleure élève de l'école. Elle écoutait la conversation de sa grand-mère et des gendarmes. Elle portait un tablier noir et ses cheveux blonds étaient coiffés en natte avec un nœud bleu à chaque bout. À côté d'elle se tenait une jeune fille de 18 ans, massive, rousse, au gros menton blanc qui la faisait marlue comme une vache. Ses bras nus, frais et roses, couverts de poils d'or, brillaient au soleil. Elle venait de donner à manger aux poules et à son poignet était passé encore l'anse d'un seau de métal. Deux jeunes gens, vêtements de travail, ôtèrent leurs sabots sur le seuil, entrèrent et s'avancèrent sans dire mot jusqu'à la table. Ces garçons et leurs sœurs étaient des neveux de la vieille qui les avait pris comme domestiques. Elle n'employait pas d'étrangers à la ferme. La famille suffisait à tout. Pour les grands travaux seulement, on engageait des aides, mais on était en mars. La journée avait été belle, ensoleillée. Les bêtes sortaient dans la campagne pour la première fois depuis la fin du long hiver. Un flot de moutons passa entre les ruines de la chapelle et les rives de l'étang. Leurs bêlements emplirent l'air. Le ciel était d'une tendre couleur bleue. les gendarmes avaient envie de s'assoupir, leurs petits verres de marbu, tandis que montait autour d'eux la douce rumeur que fait une cour de ferme au printemps, murmure de la neige qui fond et s'écoule entre deux pierres, roucoulement des pigeons sur le toit, gambade joyeuse des poulains dans le pré voisin, et le côte-côte-côte engourdi de la volaille heureuse qui picore ses graines, tandis que s'envole légèrement et retombe une plume ébouriffée d'un blanc de neige. Par des jours pareils, quoi de meilleur que de rester assis sur sa chaise, près de la porte ouverte, la tête à l'ombre et les pieds au soleil, sans penser à rien, mais il fallait poursuivre l'interrogatoire. Les gendarmes allumèrent leur pipe et l'un d'eux demanda « Donc, si je comprends bien, il n'y avait personne à la maison, madame, le matin du vol. »« Moi, j'étais aux bêtes, » dit la vieille. Les deux garçons réparaient les clôtures. Ma nièce Cécile était avec moi et la Marcelle s'occupait des agneaux. Nous en avons dont les mères sont péries et qu'il faut nourrir au biberon. C'est la petite qui s'en charge. Vous aviez l'œil sur tout votre monde ?»« C'est assez mon habitude, » dit la femme avec un mince sourire. Tout le monde ici est donc hors de soupçon. Tout le monde ici est de la famille et ne peut être soupçonné, répondit-elle en toisant le gendarme. Je ne vous appelle point pour les miens, mais pour ceux du dehors. Ce matin-là, des gens se rendaient à la foire, au bourg. Des conducteurs de bestiaux sont entrés chez nous, comme ils font parfois, demander à boire. De ces conducteurs, il y avait le gars Bracelet qui sort de prison, et l'âdre qui est un ivrogne et vendrait sa mère pour avoir du vin. À mon avis, ils sont entrés dans la maison, ont vu qu'elle était vide, ont fait le coup, sont ressortis pour me parler, m'ont arrêté dans la cour comme je sortais de l'écurie. « C'est possible, » dit le gendarme songeur. « C'est aussi après leur départ que vous vous êtes aperçu du vol ?»« Oui, je les ai regardés qui regagnaient la route, puis je me suis rappelé qu'on manquait de pain. J'ai crié à Marcel de laisser les agneaux, de prendre sa bicyclette. Je suis rentré pour lui remettre l'argent. J'ai soulevé les draps, j'ai vu. « Montrez voir l'armoire. » Ils se dirigèrent, précédés par la vieille, vers la pièce voisine. La grand-mère et la petite fille y couchaient dans deux grands lits qui se faisaient face, couverts chacun d'un étendon rose et d'une couverture au crochet. L'armoire était ancienne, profonde, très belle. Ouverte, elle laissa voir des piles de torchons, de thé et de draps. De place en place se trouvait une tirelire, un petit coffret de métal, une bourse de cuir, un écrin de bijoutier. L'argent était gardé là, ni banque, ni caisse d'épargne pour ceux du Martelet. Sans doute, en fouillant davantage, on aurait pu trouver là des louis d'or d'avant 14, des couverts d'argent achetés à Paris à l'exposition de 1900, les bagues, les colliers, les chaînes de montres de plusieurs générations. « Vous ne fermiez donc pas votre armoire à clé ?» demanda le gendarme à la femme. Elle lui jeta un regard de mépris. « Vous pensez que j'aurais laissé tout ça à l'air ?» « Je fermais la clé chaque fois et je mettais la clé ici, » dit-elle en montrant le tiroir d'une table, bien caché sous mon paroissien. Personne ne le savait, la famille le savait. Mais comment un étranger aurait-il appris? Pour moi, le gars Bracelet et le gars Ladre ont dû m'épier une fois qu'ils étaient ici et qu'ils buvaient mon vin à la cuisine. Ils m'auront vu entrer dans ma chambre, chercher de l'argent dans l'armoire, la refermer et cacher la clé là. On n'a rien pris d'autre? Rien. Sans doute qu'ils n'auront pas eu le temps. En me voyant sortir de l'écurie. « Possible, » fit le gendarme en hochant la tête. Il regarda les murs qui avaient été blanchis à la chaux et qui étaient ornés d'un portrait du pape, d'un calendrier en couleur, de deux photographies encadrées. L'une d'elles représentait Marcel en communiante, l'autre, un jeune homme de 20 ans, son père. La monumentale cheminée portait un écusson sculpté dans la pierre, les armes des barons du jeu. Un pinson chantait dans une cage accrochée à la fenêtre. « On avisera, » dirent les gendarmes. Au moment où ils allaient partir, la petite Marcelle, qui était demeurée silencieuse et très droite, à côté de sa grand-mère, fit un pas en avant. « Messieurs, je voudrais vous parler. Ce n'est point le gars Bracelet ni le gars Ladre qui ont pris l'argent, c'est moi. » Elle avait une petite voix claire et froide, son visage était impassible. « Toi ?» s'écria le gendarme. Il la prit par le menton, la regarda dans les yeux. « C'est toi qui as volé ta grand-mère ? Qu'est-ce que tu as fait des sous ?» Marcel souleva un coin de l'édredon qui couvrait son lit, elle le porta à sa bouche, fit craquer sous ses dents le fil d'une couture, plongea la main dans la plume, en retira 2 billets de 1 000 francs froissés qu'elle jeta au gendarme. « Reprenez-les, c'est moi qui suis entré ici pendant qu'on me croyait occupé aux agneaux. Tu n'as pas honte ?» firent les gendarmes indignés. « Toi, à qui on ne refusait rien, mais tu es une vaurienne ?»« Oui, » fit-elle tranquillement. Une moins que rien, une voleuse ? Oui. Sais-tu qu'on te mettra en prison ?
Oui,
dit-elle encore. Mais qu'est-ce que tu voulais faire de ces 2000 francs ?
M'acheter des choses.
Quelles choses ? Elle ne répondit pas. Et pourquoi, avoues-tu, tout à coup ?
Elle parut se troubler.
Elle pâlit excessivement et ses paupières battirent. Tu avais peur qu'on te découvre, hein ?
Oui, c'est ça,
murmura-t-elle précipitamment. Tu sais que ton nom sera dans les journaux, que tout le pays saura que la petite fille à Madame Malaret est une voleuse.
Oui,
fit-elle d'un air de défi. La famille n'avait pas dit un mot. La grosse Cécile souriait d'un air de jubilation profonde. Ce devait être un bon moment pour elle que celui où on l'humiliait, où on traitait de voleuse la petite cousine, la préférée de la grand-mère, la bâtarde, l'héritière. Son visage s'épanouit. La vieille leva la main et souffleta de reprise la joue de Marcel, qui supportait le coup sans rien dire, les yeux étincelants. « Ce n'est pas assez, madame, » dit le gendarme. « Il faut la fouetter, à la laisser quasi morte sur place. Une enfant comblée de vos bontés. Si vous ne me promettez pas de la corriger, elle couchera cette nuit en prison, » dit-il en feignant de prendre l'enfant par l'épaule. Elle ne résista pas. La grand-mère poussa une sorte de sanglot étouffé. « Laissez-la, messieurs, je la corrigerai, » promit-elle. « Oui, je la corrigerai. Mais laissez-moi, laissez-nous. C'est une affaire de famille. Ça ne regarde que la famille. Je retire ma plainte. » Les gendarmes partis, elle se tourna vers ses neveux, leur fit signe de s'en aller, et ferma derrière eux la porte à clé. Quand elle revint vers Marcel, celle-ci s'écria d'une voix sauvage. « Mémé, tu peux me battre, me tuer, mais tu ne feras plus jamais la fière. Tout le monde saura que, moi aussi, je suis une voleuse. » La vieille femme se laissa tomber sur une chaise. «
Pourquoi tu fais ça ? » dit-elle faiblement.
L'enfant, qui s'attendait sans doute à des cris, à des coups, parut désorienté. Elle répéta plus bas.
« Tu peux me battre, me tuer, mémé.
« Pourquoi as-tu fait ça ? » demanda de nouveau la grand-mère. Elle regardait Marcel. Elle ne faisait pas un geste vers elle. Elle avait élevé sa petite-fille sans caresse ni mot tendre, lui donnant un baiser rapide sur la joue pour la nouvelle année ou à la distribution des prix, quand l'enfant revenait de l'école chargé de couronnes.
« Marcel, regarde-moi, » dit-elle enfin.
L'enfant, avec effort, leva les yeux. « Ça fait 6 mois que tu me fais la tête. Tu ne me parles pas. Tu sors de la maison pour ne pas rester avec moi. Pourquoi ? Tu es enfer, Marcel, enfer. Personne ne sait ce que tu as dans la tête. Ceux du Malaret, on n'a jamais su ce qu'ils ruminaient, jusqu'au jour où ça a été trop tard. Mais crois pas que j'ai rien vu. Ça te tient depuis l'été. Tu préparais ton mauvais coup. Pourquoi est-ce que tu m'en veux ?» L'enfant cria « Mémé !» puis se tut. « Tu parleras point, tête de fer ?» Elle fit signe que non. « Quand je t'ai battu tout à l'heure, ça a été plus fort que moi. Tu me faisais trop honte. Mais j'ai eu plus mal que toi. Je sais, mémé. Je travaille pour toi. Je travaille dur. Tout ce qu'il y a ici, c'est pas pour la Cécile ni personne d'autre. Ce n'est que pour toi. En prenant mes sous, c'est toi-même que tu voles. Y avait-il quelque chose qui te faisait trop envie ? Des livres ? Un bijou ? 2000 francs, c'est une somme. Mais si tu l'avais demandé pour quelque chose de raisonnable, j'y aurais donné, tu le sais.
Oui, mémé.
Marcel, tu vas me dire pourquoi tu as fait ça. »
L'enfant maintenant pleurait à gros sanglots.
Elle tourdit brusquement ses mains maigres et tout à coup cria avec désespoir.
« Tu ne comprendrais pas. C'est pas la peine que j'essaie d'expliquer. Tu ne comprendrais pas, ni personne. »
Elle pleura longtemps, immobile et muette. Enfin, elle dit «
Tu te rappelles quand on battait le blé ?»«
Oui, » dit la grand-mère, attentive. L'enfant chercha ses mots. Toutes deux, la grand-mère et la petite fille, revoyaient cette journée de septembre où on avait battu le blé à Malaret. C'était le dernier des grands travaux rustiques de la saison, un jour de labeur et de fête. La veille, depuis le matin, d'énormes tartes blondes avaient cuit au four, et pour les décorer, toute la semaine les enfants avaient fait la cueillette des fruits. La table était chargée de grands paniers de prunes. Leurs peaux d'or fendillées laissaient échapper des perles de sucre et leur parfum attirait les abeilles et les guêpes. Soulé au plafond, l'air vibrait d'un bourdonnement bas, incessant, à la fois joyeux et grave, qui semblait la musique même de l'été et qui mettait le cœur en fête. Ce jour-là, dans les campagnes, c'est à qui donnera le meilleur repas aux amis, aux ouvriers et aux voisins. On préparait des grasses volailles, le bon vin, les tourtières bourrées de cerises et de crème, les galettes luisantes de beurre. La maîtresse s'affairait. Les enfants dénoyautaient les fruits. Tu te rappelles, mémé, que j'étais dans la salle, seule avec la Cécile.
Elle a toujours été méchante pour moi, la Cécile. Le sucrier bleu qui avait été cassé il y a 2 ans, qu'elle a dit que c'était moi qui l'avais laissé tomber, eh bien ce n'est pas moi, c'est elle.
Pourquoi tu ne t'es pas défendue?
Parce que... T'étais trop fière, hein, pour te défendre, murmura la grand-mère, et elle hocha plusieurs fois la tête d'un air pensif.
Alors, Marcel?
Alors on a eu des mots. Moi, pour rire et pour me moquer d'elle, je chipais des prunes dans le plat pendant qu'elle allait au four pour surveiller la cuisson. Elle s'est mise en colère et elle m'a appelée voleuse. Moi, je riais. Ce n'est pas un vol, n'est-ce pas, mémé, que de manger des fruits le jour où l'on bat le blé. De me voir rire, elle est devenue tout à coup furieuse et elle m'a dit « Oui, tu es une voleuse comme ta mère qui était servante ici, qui a pris une broche en or à la grand-mère, une voleuse qu'on a mise à la porte et qui est morte en prison. » Moi, je criais « Ce n'est pas vrai !» Alors elle a demandé à mes cousins qui venaient d'entrer si c'était bien la vérité. Et ils ont dit oui, que ma mère était une voleuse, qu'on avait chassée du domaine. Je savais que j'étais une bâtarde, mémé. Ça, je l'ai toujours su. Mais ça m'était égal, je ne suis pas la seule. À l'école, il y a la Jeanne de Montmort qui est bâtarde, et Jeanne du Moulin Neuf, et la Marie du Sabotier, et dans le bourg, l'Hortense de l'Hôtel des Voyageurs, un petit qui a point de père. Un père, j'en avais un, et qu'il n'ait jamais été marié à maman, ça m'était égal. Mais on ne m'avait jamais dit que ma mère était une voleuse. Marcel. Alors je n'ai pas pu l'oublier. J'y pensais tout le temps. J'avais honte et je te détestais presque d'avoir dit ça au monde. D'avoir permis que tout le monde sache que ma maman à moi était une voleuse. Nous, on est fiers au Malarais. On ne doit rien à personne. Tu m'as toujours dit qu'on pouvait regarder les gens de haut, parce qu'on ne faisait de tort à personne. Et j'ai pensé à ceux qui, derrière mon dos, diraient toujours, toute ma vie, « Sa mère était une voleuse ». Je pouvais rien faire pour changer ça. Bien travailler en classe, avoir des belles robes, jouer du piano comme une demoiselle, et plus tard être la maîtresse du Malarais, ça n'y ferait rien. Et tout ça à cause de toi. On avait fait déjà assez de tort à ma mère puisque papa ne l'a pas épousée. On lui a enlevé son enfant. On a fait savoir au monde entier qu'elle avait volé. Alors j'ai voulu te punir. Je me suis dit, mémé, elle aussi, saura ce que c'est qu'avoir honte et rougir de sa famille. C'est moi qu'elle aime, c'est par moi qu'elle sera punie. Et puis, je ne voulais pas être plus heureuse que maman, tu comprends? Elle, on l'a mise dehors, on a appelé les gendarmes. Moi aussi, je pensais que tu les ferais venir et que tu me chasserais. Ça m'est égal d'aller en prison. Toi, dans le bourg, les gens auraient dit « Vous savez, sa petite fille, la Marcel, n'est qu'une voleuse. » Et tu aurais compris, tu aurais senti. Alors j'ai pris dans l'armoire la médaille de baptême de papa, en or. Je l'ai cachée dans la litière des agneaux. Puis, la même nuit, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu peur et je l'ai rapportée. Mais je pensais de plus en plus à maman. Je la voyais en rêve. C'est vrai qu'elle est morte en prison?
Non, ce n'est pas vrai. Elle s'est placée à Paris, puis elle est morte.
Moi, je la voyais en prison et je me réveillais. Tu me disais, est-ce que tu as pleuré en rêve? Tu as les joues toutes mouillées.
J'allais au bourg, j'entendais dire, sa mère était une pas grand-chose, mais elle...
Sa grand-mère est bien fière d'elle. Je t'en voulais de plus en plus, mémé, et j'ai pris l'argent. La Cécile en est bien contente, mais même ça, ça m'est égal. Elle se tut. La vieille femme, elle aussi, demeurait muette et immobile. Cependant, ses lèvres s'agitaient, comme si elle voulait parler, et n'en avait pas le courage. Sa maigre figure était devenue livide. Elle fit un signe et appela Marcel auprès d'elle. Elle murmura d'une voix étouffée. « Ta mère n'est point une voleuse. La broche qu'on n'a jamais retrouvée, c'est moi qui l'ai cachée dans la cheminée de la chambre, ici, sous une pierre qui était décellée. Sans doute qu'elle y est encore. J'ai point regardé depuis 12 ans. » Ce fut au tour de Marcel de demander « Pourquoi tu as fait ça ?»«
Je ne pouvais pas la voir, Marcel, » dit la grand-mère. Et une grimace âpre et furieuse convulsa ses traits.
« Tu me dis fier ? » ?»«
Oui, je l'étais pour mon fils. Il aurait pu prendre pour femme ce qu'il y avait de mieux dans le pays. Et cette moins que rien était la mère de ma petite fille. Elle pouvait t'élever comme elle voulait, faire de toi ce qu'elle voulait, quoi. Elle en avait le droit comme moi, plus que moi. J'ai voulu me débarrasser d'elle. » Je lui ai proposé de l'argent pour qu'elle parte et te laisse. Mais non, elle ne voulait pas. Alors, j'ai dit qu'elle était une voleuse et je l'ai chassée. Elle s'est défendue, mais personne ne l'a cru. Elle n'a point osé te réclamer. Marcel, va voir dans la cheminée. Tu verras une brique qui branle. Apporte ce que tu trouveras. L'enfant obéit et revint avec une broche en or, de façon ancienne, ornée de petites perles qui formaient un cœur. La vieille femme la regarda un instant en silence. Je ne suis pas fière, ma fille, puisque je te dis ça, à toi, fit-elle enfin.
Mémé, je me fais mal juger par toi, et tu me dois le respect. C'est pour que tu n'aies plus honte de ta mère qui était innocente que je te dis ça, et pour que tu ne me crois pas plus orgueilleuse que je suis. Vis-à-vis des autres, oui. Nous sommes nés fiers, c'est notre sang qui veut ça, mais vis-à-vis du bon Dieu, on se voit comme on est, Marcel.
Mémé, tu as bien fait du tort à ma mère, s'écria l'enfant en pleurant.
Tu m'as bien fait du tort aujourd'hui, Marcel. Pour le monde, continua la vieille, il faut que je te punisse. Je te mettrai à chauffaille chez ma sœur comme servante. Tu partiras demain.
Je reviendrai après les grands travaux? Demanda anxieusement Marcel. La grand-mère secoua la tête.
Non, c'est impossible. Les gens diraient que je t'ai pardonné trop vite. Tu comprends? Il faut qu'on sache que tu as été puni comme il faut et que les choses d'honneur, c'est sacré pour nous. Ils me respecteront et toi aussi plus tard. Tu comprends?
Je comprends, mémé.
Viens maintenant.
Elles rentrèrent dans la salle vide. La grand-mère prépara la soupe. La petite fille s'assit près de la fenêtre avec un livre. Son cœur se brisait. Elle n'avait jamais quitté le Malarais. Qu'il lui manquerait ce pays fier et sauvage? De temps en temps, des larmes voilaient son regard. Elle ne leur permettait pas de couler sur ses joues. Elle serrait violemment les lèvres et les pleurs semblaient rentrer en elle, comme aspirées par un feu intérieur. À l'heure du repas, ses cousins apparurent sur le seuil. Ils lui jetèrent de loin un coup d'œil curieux, sans rien dire. Chacun d'eux ôta ses sabots, se lava les mains à la fontaine de cuivre et prit place à table. Les hommes gardaient leurs casquettes sur la tête selon la coutume. On mangea la soupe en silence. Puis la grand-mère repoussa son assiette. Elle croisa devant elle ses dures mains crevassées et dit posément « Demain, la Marcel quitte le domaine. Elle s'en va à chauffaille chez ma sœur comme servante. » C'est en punition de sa mauvaise conduite. Elle m'a tout avoué. Elle a voulu faire une mauvaise farce en prenant l'argent. Et quoique ce ne soit pas un vol, elle mérite d'être punie pour apprendre à respecter les choses d'honneur. Elle se tut. L'enfant la regardait fixement. Ses cousins, la fourchette en l'air, attendaient. La grand-mère acheva d'une voix forte. À quelque chose, malheur est bon. En cherchant hier, tout partout, ce maudit argent, j'ai mis la main sur la broche qui avait été perdue voilà 12 ans. C'était donc point la Marguerite qui l'avait prise, comme je le croyais. Je regrette qu'elle soit morte. Je lui demanderai pardon de lui avoir fait tort.
La broche? S'écria Cécile haletante.
La grand-mère desserra les doigts et le bijou tomba sur la table. Personne ne parlait. Dans le silence, on entendit le soupir profond exhalé par Marcel, et tout à coup, l'enfant fondit en larmes. La grand-mère ne parut pas s'en apercevoir. Elle se leva, ôta le couvert, plia la nappe et mit l'eau à chauffer pour la vaisselle. Puis elle commanda d'une voix égale et calme.
« Allez enfermer les bêtes pour la nuit. Toi, Marcel, va faire tes paquets, ma fille. »
Et l'enfant répondit. « Oui, mémé. » Ainsi s'achève La voleuse par Irène Némirovski.